Gott in den Weg. Cheminer. Dans notre approche de l'angoisse, laquelle elle-même, je vous fais entendre, pour être de l'ordre de l'approche. Bien sûr, vous êtes déjà suffisamment avisé par ce que je produis ici. Que je veux vous apprendre que l'angoisse n'est pas ce que un peuple pense. Néanmoins, vous verrez, relisant par après les textes sur ce point majeur, que ce que je vous aurais appris est loin d'en être absent. Simplement, il est masqué, dévoilé à la fois. Il est masqué par certaines formules qui sont des modes d'abord, peut-être trop précautionneux. Sous leur revêtement, si on peut dire, leur carapace, les meilleurs auteurs laissent apparaître ce sur quoi j'ai déjà pour vous mis l'accent, qu'elle n'est pas object l'autre, qu'elle n'est pas sans objet. La phrase qui précède dans Hemmung, Symptom und Angst, dans l'appendice P, Ergänzung zur Angst, complément au sujet de l'angoisse. La phrase même qui précède la référence de cette preuve, suivant en cela la tradition, à l'indétermination, à l'objectlosigkeit de l'angoisse, et après tout, je n'aurais besoin que vous rappelez la masse même de l'article pour que dire que cette caractéristique d'être sans objet ne peut pas être retenue. Mais la phrase même d'avant redit l'angoisse, angst et angst fort et bas. Elle est essentiellement angoisse devant quelque chose. Que puissions nous en contenter, cette formule, bien sûr, non, je pense que nous devons aller plus loin, en dire plus sur cette structure. Structure qui déjà, vous le voyez, se pose en contraste si tant est que l'angoisse et le rapport avec cet objet que j'ai approché comme étant la cause du désir se pose en contraste par ce fort. Comment cette chose que je vous ai placée promouvant le désir en arrière du désir est-elle passée devant c'est peut-être là un des ressorts du problème. Quoi qu'il en soit, soulignons bien que nous nous trouvons avec la tradition devant ce qu'on appelle un thème presque littéraire, un lieu commun. Celui qui, entre la peur et l'angoisse, que tous les auteurs référant à la formation sémantique oppose au moins au départ, même si ensuite il tend à les rapprocher, voire à les réduire l'une à l'autre, ce qui n'est pas le cas chez les meilleurs, qu'au départ assurément on tente à accentuer cette opposition de la peur et de l'angoisse en disant différenciant leur position par rapport à l'objet. Et il est vraiment sensible, paradoxal, significatif de l'erreur ainsi commise qu'on est amené à accentuer que la peur, elle, en a un objet. Franchissant la caractéristique certaines qu'il y a là danger, objectif, guéphare, dangerité, guéferdoum, situation de danger, entrée du sujet dans le danger, ce qui, après tout, mériterait arrêt. Qu'est-ce qu'un danger? On va dire que la peur est de sa nature adéquate, correspondante, entsprechend, à l'objet d'où part le danger. L'article de Goldstein sur le problème de l'angoisse, sur lequel nous nous arrêterons, est à cet égard très significatif de cette sorte de glissement, d'entraînement, de capture, si l'on peut dire, de la plume d'un auteur qui, en la matière, a su approcher, vous le verrez, de caractéristiques essentielles et très précieuses en notre sujet, d'entraînement de sa plume, si l'on peut dire, par une thèse, insistant d'une façon dont on peut dire qu'il n'est nullement sollicité par son sujet à cet endroit, puisqu'il s'agit de l'angoisse, insistant, si l'on peut dire, sur le caractère orienté de la peur, comme si la peur était déjà toute faite du repérage de l'objet, d'une organisation de la réponse, de l'opposition, enfin de l'entgegenstehen, de ce qui est umwelt et de ce qui, dans le sujet, a à y faire face. Pas d'évoquer, je prenais enfin, dans les références, enfin, appelé dans mon souvenir par de telles propositions, je me souvenais de ce que je crois déjà vous avoir signalé, en fait, dans une petite, on ne peut pas appeler ça nouvelle, notation, impression de Tchekhov, qui a été traduite avec comme titre le terme frayeur. J'ai vainement essayé de me faire rendre compte du titre que cette nouvelle a en russe, car inexplicablement, cette notation parfaitement repérée avec son année dans ma traduction française, mais que nul de mes auditeurs russophones n'a pu me la retrouver, même avec l'aide de cette date dans les éditions de Tchekhov, qui sont pourtant faites en général chronologiques, c'est singulier, c'est déroutant, et je ne peux pas dire que je n'en sois pas déçu. Dans cette notation sous le terme de frayeur, les frayeurs qu'il a éprouvées, lui, Tchekhov, je vous ai, je crois, une fois déjà signalé de quoi il s'agissait, un jour, avec un jeune garçon qui conduit son traîneau, Droshka, quoi ça s'appelle, quelque chose comme ça, il s'avance dans une plaine et au loin, au coucher du soleil, et le soleil étant déjà tombé sous l'horizon, il voit dans un clocher qui apparaît, une approche raisonnable pour en voir les détails, et il voit vaciller par une lucarne un étage très élevé du clocher auquel il sait, parce qu'il connaît l'endroit, qu'on ne peut accéder d'aucune façon, une mystérieuse, inexplicable flamme que rien ne lui permet d'attribuer à aucun effet de reflet. Il y a manifestement le repérage de quelque chose. Il fait un bref compte de ce qui peut motiver ou non l'existence de ce phénomène. Et ayant vraiment exclu, en fait, toute espèce de cause connu, il est saisi tout d'un coup de quelque chose qui, je crois, à lire ce texte, ne peut aucunement s'appeler angoisse. Il est saisi de ce qu'il appelle d'ailleurs lui-même, je dis, faute évidemment de pouvoir d'avoir actuellement le terme russe. On a traduit cela par frayeur, je crois que c'est ce qui correspond le mieux au texte, c'est de l'ordre, non de l'angoisse, mais de la peur, et ce dont il a peur, ce n'est pas de quoi que ce soit qui le menace, c'est de quelque chose qui a justement ce caractère de se référer à l'inconnu de ce qui se manifeste à lui, les exemples qu'il donnera ensuite dans cette même rubrique, à savoir le fait qu'un jour il voit passer dans son horizon sur le rail une espèce de wagon qui nous donne l'impression à entendre sa description du wagon fantôme, puisque rien ne le tire, rien n'explique son mouvement. Un wagon passe à toute vitesse, prenant la courbe du rail qui se trouve à ce moment-là devant lui. D'où vient-il, où va-t-il? Cette sorte aussi d'apparition a arraché en apparence à tout déterminisme repérable. Voilà encore ce qui le met pour un instant dans le désordre, une véritable panique qui est bel et bien de l'ordre de la peur. Il n'y a pas non plus là de menace, et la caractéristique de l'angoisse est assurément manque, en ce sens que le sujet n'est ni étreint, ni concerné, ni intéressé à ce plus intime de lui-même qui est le versant dont l'angoisse se caractérise. Sur quoi j'insiste, le troisième exemple est l'exemple d'un chien qui rencontre dans une forêt, chien de race, que rien ne lui permet, étant donné son parfait aussi repérage de tout ce qui l'entoure, dont rien ne lui permet d'expliquer la présence à cette heure en ce lieu, et il se met à fomenter le mystère du chien de Faust, à savoir la forme sous laquelle l'aborde le diable. C'est un bien aussi du côté de l'inconnu que là se dessine la peur. Ça n'est pas d'un objet, ce n'est pas du chien qui est là qui a peur, c'est d'autres choses. C'est un, en arrière du chien. D'autre part, bien clair, que c'est sur quoi l'on insiste, que les effets de la peur ont en quelque sorte un caractère d'adéquation de principe, à savoir de déclencher la fuite, est suffisamment contredit par ce sur quoi il faut bien mettre également l'accent, que dans bien des cas, la peur paralysante se manifeste ayant une action inhibante, voire pleinement désorganisante, voire jeter le sujet dans le désarroi le moins adapté à la réponse, le moins adapté à la finalité à laquelle elle serait censée être la forme subjective adéquate. C'est donc ailleurs qu'il convient de chercher la distinction, la référence par où l'angoisse s'en distingue. Et vous pensez bien que ce n'est pas simplement paradoxe. Désir de jouer avec un renversement, si je promeus ici devant vous que l'angoisse n'est pas sans objet. Formule, enfin, dans la forme, assurément, dessine rapport subjectivé qui est celui dans le détail, dans le ressort duquel je désire avancer plus avant aujourd'hui, car bien sûr le terme d'objet est ici par moi depuis longtemps préparé dans un accent qui se distingue de ce que les auteurs ont jusque-là défini comme objet quand ils parlent de l'objet dans de la peur. Ce fort et vaste de Freud, bien sûr, et il est facile de lui donner tout de suite son support, puisque Freud l'articule, et dans l'article de toutes les manières, c'est ce qu'il appelle le danger, Gefahr ou Gefährdung interne, celui qui vient du dedans. Je vous l'ai dit, il s'agit de ne pas nous contenter de cette notion de danger, Gefahr, Gefährdung. Car si j'ai déjà signalé tout à l'heure son caractère problématique quand il s'agit du danger extérieur, en d'autres termes, qu'est-ce qui avertit le sujet que c'est un danger? Sinon la peur elle-même, sinon l'angoisse. Mais le sens que peut avoir le terme de danger intérieur est si lié à la fonction de toute une structure à conserver, de tout l'ordre de ce que nous appelons défense, pour que nous ne voyons pas que dans le terme même de défense, la fonction du danger est elle-même impliquée, mais qu'elle n'est pas pour autant éclaircie. Essayons donc de suivre plus pas à pas la structure et de bien désigner où nous entendons fixer, repérer ce trait de signal sur lequel enfin Freud s'est arrêté comme à celui qui est le plus propre à nous indiquer, enfin, à nous autres analystes, l'usage que nous pouvons faire de la fonction de l'angoisse. Et c'est ce que je vise à atteindre dans le chemin où j'essaie de vous mener. Seule la notion de réel dans la fonction opaque, qui est celle, vous savez que je parle pour lui opposer celle du signifiant, nous permet de nous orienter et déjà dire que cette etwas, devant quoi l'angoisse opère comme signal, c'est quelque chose qui est, disons, pour l'homme, avec l'entre guillemets nécessaire, de l'ordre de l'irréductible de ce réel. C'est en ce sens aussi que j'ai osé devant vous la formule que l'angoisse de tous les signaux est celui qui ne trompe pas. Du réel, donc. Et je vous l'ai dit d'un mode irréductible sous lequel ce réel se présente dans l'expérience, tel est ce dont l'angoisse est le signal, tel est à l'instant, au point où nous en sommes, le guide fil conducteur. Quel,
je vous demande, de
tenir pour voir où il nous mène. Ce réel est sa place. C'est exactement celui que, avec le support du signe, la barre, peut s'inscrire en opération qu'on appelle arithmétiquement de la division, je vous ai déjà appris à situer le procès de la subjectivation pour autant que c'est au lieu de l'autre, sous les espèces primaires du signifiant que le sujet a à se constituer. Au lieu de l'autre, et sur le donné, ce trésor du signifiant, déjà constitué dans l'autre, et aussi essentiel à tout avènement de la vie humaine que tout ce que nous pouvons concevoir de nouvelle naturelle, ce rapport à ce trésor du signifiant qui d'ores et déjà datant constitue les cadres où il a à se situer que le sujet est à ce niveau mythique qui n'existe pas encore, qui n'existe que partant du signifiant qui lui est antérieur, qui est par rapport à lui constituant, que le sujet fait cette première opération interrogative dans A, si vous voulez. Combien de fois est-ce? Et l'opération supposée certaines façons, qui est ici le A marqué de cette interrogation, qui apparaît différent entre ce A répondre et le A donner, quelque chose qui est le reste, l'irréductible du sujet, c'est petit A. Petit A est ce qui reste irréductible dans cette opération totale d'avènement du sujet au lieu de l'autre. C'est de là qu'il va prendre sa fonction. Le rapport de ce petit A à l'est. Le petit A en tant qu'il est justement ce qui représente le S dans son réel irréductible. Ce petit A sur S, c'est cela qui boucle l'opération de la division, ce qui, en effet, puisque A, si l'on peut dire, c'est quelque chose qui n'a pas comme un dénominateur, qui est hors du commun dénominateur entre le petit A et le S, si nous voulons conventionnellement boucler l'opération quand même, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons au numérateur le reste et au dénominateur le diviseur. Le S barré est équivalent au petit A sur S. Ce reste donc, en tant qu'il est la chute, si l'on peut dire, de l'opération subjective, ce reste où nous reconnaissons ici structurellement, si vous voulez, dans une analogie calculatrice, l'objet perdu, c'est ça. À quoi nous avons affaire, d'une part dans le désir, d'autre part dans l'angoisse. Nous y avons affaire dans l'angoisse, si l'on peut dire logiquement, antérieurement, au moment où nous y avons affaire dans le désir. Et si vous voulez, pour connoter les trois étages de cette opération, nous dirons qu'il y a ici un X que nous ne pouvons nommer que rétroactivement, qui est à proprement parler l'abord de l'autre, la visée essentielle, où le sujet a à se poser, et donc, je vous dirai le nom par après, nous avons ici le niveau de l'angoisse, pour autant qu'il est constitutif de l'apparition de la fonction de Tita, et c'est au troisième terme qu'apparaît le S pareil, comme sujet du désir. Pour illustrer maintenant, faire vivre cette abstraction sans doute extrême que je viens d'articuler, je vais vous ramener à l'évidence de l'image, et ceci, bien sûr, d'autant plus légitimement que c'est d'image qu'il s'agit, que cet irréductible du petit a est de l'ordre de l'image. Celui qui a possédé l'objet du désir et de la loi. Celui qui a joui de sa mère, Édipe, pour le nommer. Fait ce pas de plus. Il voit ce qu'il a fait. Vous savez ce qui alors arrive. Quel mot choisit? Comment dire ce qui est de l'ordre de l'indicible et ce dont pourtant je veux pour vous faire surgir l'image? Il voit ce qu'il a fait a pour conséquence qu'il voit, c'est là le mot devant lequel je bute, l'instant d'après, ses propres yeux boursouflés de leur tumeur vitreuse au sol. Un confus amas tordu. Puisque comment le dire ainsi, puisque, pour les avoir arrachés de ses orbites, ses yeux, il a bien évidemment perdu la vue. Et pourtant, il n'est pas sans les voir. Les voir comme tel. Comme l'objet cause, enfin dévoilé, de la dernière, ultime, et non plus coupable, mais hors des limites, concupiscence, celle d'avoir voulu savoir. La tradition dit même que c'est à partir de ce moment qu'il devient vraiment voyant. À Cologne, il voit aussi loin qu'on peut voir, et si loin d'en avant qu'il voit le futur destin d'Athènes. Qu'est-ce que le moment de l'angoisse? Est-ce que c'est le possible de ce geste par où Œdipe peut s'arracher les yeux? En faire ce sacrifice, cette offre rançon, de l'aveuglement où s'est accompli son destin. Est-ce cela l'angoisse? Possibilité, disons, qu'à l'homme de se mutiler. Non. C'est proprement ce que, par cette image, je m'efforce de vous désigner. C'est qu'une impossible vue vous menace de vos propres yeux par terre. C'est là la clé, je crois, la plus sûre que vous pourrez toujours retrouver sous quelques modes. D'abord, que se présente pour vous le phénomène de l'angoisse. Et puis, si expressive, si provocante que soit, si l'on peut dire, l'étroitesse
de la localité
que je vous désigne comme étant ce qui est cerné par l'angoisse. Apercevez bien que cette image, ça n'est pas par quelque préciosité de mon choix qu'elle se trouve là. Comme hors des limites, ce n'est pas un choix excentrique. Il est, une fois que je vous le désigne, bel et bien courant à rencontrer. Allez dans la première exposition actuellement. Ouverte au public, au musée des arts décoratifs, et vous verrez de Zurbaran, l'un de Montpellier, l'autre d'ailleurs, qui vous représente qui Lucie, je crois, qui Agathe, avec chacune, qui ses yeux dans un plat. Et qui la paire de ses seins. Martyr, dit-on, ce qui veut dire témoin de ce qu'on voit. Ici, d'ailleurs, que ce n'est pas, comme je vous le disais, le possible geste. À savoir que ses yeux soient énuclés, que ses seins soient arrachés, qui angoisse, car à la vérité, chose qui mérite aussi d'être remarquée, ces images chrétiennes ne sont pas, mon Dieu, spécialement mal tolérées, malgré que certains, pour des raisons qui ne sont pas toujours les meilleures, fassent à leur endroit la petite bouche. Stendhal, parlant de San Stefano et une rotondo à Rome, trouve que ces images qui sont sur les murs sont dégoûtantes. Assurément, elles sont à l'endroit nommé, assez dépourvu d'art pour qu'on soit introduit, je dois dire, un peu plus vivement à leur signification. Mais ces charmantes personnes que nous présente Zurbaran, à elles, à nous présenter sur un plat, ces objets ne nous présentent vraiment rien d'autre que ce qu'il peut faire à l'occasion, et nous ne nous en privons pas, l'objet de notre désir, d'aucune façon. Ces images ne nous introduisent, je pense, pour ce qui est du commun d'entre nous, à l'ordre de l'angoisse. Pour ceci, il conviendrait qu'il y fût concerné plus personnellement. Qu'il fût sadique ou masochiste, par exemple. À partir du moment où il s'agit
vrai sadique ou d'un vrai masochiste. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui peut avoir des fantasmes que nous épinglons sadique ou masochiste pour ce qu'ils reproduisent la situation fondamentale du sadique ou du masochiste. Le vrai sadique, donc, pour autant que nous pouvons repérer, coordonner, construire sa condition essentielle, le vrai masochiste aussi, pour autant que nous pouvons par repérage, élimination successive, nécessité de pousser plus loin le plan de sa position que de ce qui nous est donné par d'autres, comme Erlebnis. Erlebnis plus homogène à nous-mêmes, Erlebnis du névrosé, mais Erlebnis qui n'est que référence, dépendance, image de quelque chose au-delà qui fait la spécificité de la position perverse et où le névrosé prend en quelque sorte référence et appui pour des fins sur lesquelles nous reviendrons. Essayons donc de dire ce que nous pouvons présumer de ce qu'est cette position sadique ou masochiste. Ce que les images de Lucie et Agathe de Cerbaran peuvent vraiment intéressé. La clé en est l'angoisse. Mais il faut la chercher, savoir pourquoi. Le masochiste, je vous l'ai dit l'autre jour, la dernière fois, quelle est sa position? Qu'est-ce que masque à lui son fantasme? D'être l'objet d'une jouissance de l'autre qui est sa propre volonté de jouissance. Car après tout, le masochisme ne rencontre pas comme un apologue humoristique déjà cité ici vous le rappelle forcément son partenaire. Qu'est-ce que cette position d'objet masque? Si ce n'est de rejoindre lui-même, de se poser dans la fonction de la loque humaine, de ce pauvre déchet de corps séparé qui nous est ici présenté. Et c'est pourquoi je dis que la visée de la jouissance de l'autre est une visée fantasmatique. Ce qui est cherché, c'est chez l'autre la réponse à cette chute essentielle du sujet dans sa misère dernière et qui est l'angoisse. Où est cet autre dont il s'agit? C'est bien là. Pourquoi a été produit dans ce cercle le troisième terme, toujours présent dans la jouissance perverse, l'ambiguïté profonde où se situe une relation en apparence duelle, se retrouve ici, car aussi bien cette angoisse pour vous faire sentir ce où j'entends vous l'indiquer, nous pourrions dire, et la chose est suffisamment mise en relief par toutes sortes de traits de l'histoire, que cette angoisse qui est la visée aveugle du masochiste, car son fantasme la lui masque, elle n'en est pas moins réellement ce que nous pourrions appeler l'angoisse de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de faire appel au mythe chrétien le plus fondamental pour donner corps à ce qui s'y avance, et si toute l'aventure chrétienne n'est pas engagée sur cette tentative centrale, inaugural, incarné par un homme dont toutes les paroles sont encore à réentendre, d'être celui qui a poussé les choses jusqu'au dernier terme d'une angoisse qui ne trouve son véritable site qu'au niveau de celui pour lequel est instauré le sacrifice, c'est-à-dire au niveau du Père. Dieu n'a pas d'âme. Ça, c'est bien évident. Aucun théologien n'a encore songé à lui en attribuer une. Pourtant, un changement total, radical, de la perspective du rapport à Dieu a commencé avec un drame quelqu'un s'est fait l'âme de Dieu. Car c'est vous situer aussi la place de l'âme
à ce niveau.
Petit a. De résidu. D'objet chu. Dont il s'agit essentiellement qu'il n'y a pas de conception vivante de l'âme avec tout le cortège dramatique ou cette notion apparaît et fonctionne dans notre ère de culture, sinon accompagné justement de la façon la plus essentielle de cette image de la chute. Tout ce qu'articule Kierkegaard n'est rien que référence à ces grands repères structuraux. Alors, maintenant, observez que j'ai commencé par le masochiste. C'était le plus difficile, mais aussi bien c'était celui qui évitait les confusions. Car on peut mieux comprendre ce que c'est que le sadique et le piège qu'il y a. À n'en faire que le retournement, l'envers, la position inversée de celle du masochiste, à moins qu'on ne procède de ce qui se fait d'habitude en sens contraire. Chez le sadique, l'angoisse est moins cachée, elle l'est même si peu, qu'elle vient en avant dans le fantasme, lequel, si on l'analyse, fait de l'angoisse de la victime une condition tout à fait exigée. Seulement, c'est cela même qui doit nous mettre en méfiance. Ce que le sadique cherche dans l'autre, car il est bien clair que pour lui, l'autre existe, et que ce n'est pas parce qu'il le prend pour objet que nous devons dire qu'il y a là je ne sais quelle relation que nous appellerions immature, ou encore, comme on s'exprime, très génital, l'autre est absolument essentiel, et c'est bien ce que j'ai voulu articuler quand je vous ai fait mon séminaire sur l'éthique, en rapprochant ça de Kant. L'essentiel mise en question, à la question de l'autre, qui va jusqu'à simuler, et non par hasard, les exigences
de la loi morale sont bien là pour nous montrer que la référence à l'autre comme tel fait partie de sa visée. Mais qu'est-ce qu'il y cherche ? C'est ici que les textes que nous pouvons retenir, je veux dire, ceux qui donnent quelques prises à une suffisante critique, prennent leur prix. Leur prix, bien sûr, signalé par l'étrangeté de tel moment, de tel détour, qui en quelque sorte se détache, détonne par rapport au fil suivi. Je vous laisse à rechercher dans Juliette. Voir dans les 120 journées, ces quelques passages, où les personnages tout occupés à subir sur telle victime choisit leur avidité de tourment, entrent dans cette bizarre, singulière et curieuse transe, je vous le répète plusieurs fois, indiqué dans le texte de Sade, et qui s'exprime en ces mots étranges, en effet, il me faut bien ici articuler. J'ai eu, s'écrie le tourmenteur, j'ai eu la peau du con. Ce n'est pas là qui va de soi dans le sillon de l'imaginable, et le caractère privilégié, le moment d'enthousiasme, le caractère de trophée suprême brandi au sommet du chapitre, et quelque chose qui, je crois, est suffisamment indicatif. Et ceci, c'est que quelque chose est cherché, qui est en somme l'envers du sujet, ce qui prend ici sa signification de ce trait de retourné que souligne l'essence féminine de la victime, c'est du passage à l'extérieur de ce qui est le plus caché qu'il s'agit. Mais observons en même temps que ce moment est en quelque sorte indiqué dans le texte lui-même comme étant totalement impénétré par le sujet, laissant justement ici masquer le trait de sa propre envoi. Pour tout dire, s'il y a quelque chose qu'évoque aussi bien ce peu de lumière que nous pouvons avoir sur la relation véritablement sadique que la forme des textes explicatifs le sens déploie le fantasme, s'il y a quelque chose qu'il nous suggère, c'est en quelque sorte le caractère instrumental. À quoi se réduit la fonction de l'agent? Ce qui, en quelque sorte, dérobe au sens, sauf en éclair, la visée, son action, c'est le caractère de travail de son opération. Lui aussi a rapport à Dieu, ce qui s'étale partout dans le texte de Sartre. Il ne peut avancer d'un pas sans cette référence à l'être suprême en méchanceté, dont il est aussi clair pour lui que pour celui qui parle, que c'est de Dieu qu'il s'agit. Il se donne, lui, un mal fou considérable, épuisant jusqu'à manquer son but pour réaliser ce que, Dieu merci, c'est le cas de le dire, Sartre nous épargne d'avoir à reconstruire, car il l'articule comme tel pour réaliser la jouissance de Dieu. Je pense vous avoir montré ici le jeu d'occultation. Par quoi angoisse et objet chez l'un et chez l'autre sont amenés à passer au premier plan, l'un aux dépens de l'autre terme, mais en quoi aussi dans ces structures se désigne, se dénonce le lien radical de l'angoisse à cet objet en tant qu'il soit, par là même que sa fonction essentielle est approchée, par sa fonction décisive de reste du sujet. Du sujet comme réel. Assurément, ceci nous incite à revoir, à mettre plus d'accent sur la réalité de ces objets. Et en passant à ce chapitre suivant, je ne peux manquer de remarquer à quel point ce statut réel des objets, déjà pourtant pour nous repérer, a été laissé de côté, mal défini par des gens qui se veulent pourtant pourvus de références ou de repères biologiques. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de s'apercevoir d'un certain nombre de traits qui ont leur relief et où je voudrais, enfin, comme je le peux, enfin, en poussant ma charrue devant moi, vous introduire. Car enfin, puisque nous les avons là, par exemple, sur le plat de la Sainte Agathe, les saints en question, ça n'est pas un.
Une occasion de réfléchir, puisque déjà depuis longtemps, on l'a dit, l'angoisse apparaît dans la séparation. Mais alors, nous le voyons bien, ce sont des objets séparables. Et ils ne sont pas séparables par hasard, enfin, comme la patte d'une sauterelle. Ils sont séparables parce qu'ils ont déjà, si je puis dire, très suffisamment, anatomiquement, un certain caractère plaqué. Voilà. Accroché. Ce caractère très particulier de certaines parties anatomiques qui spécifie tout à fait un secteur de l'échelle animale. Vous voyez qu'on appelle précisément dans sa raison, c'est même assez curieux. Se soit aperçu du caractère tout à fait essentiel, signifiant à proprement parler de ce trait. Car enfin, il semble qu'il y a des choses plus structurales que les mâmes pour désigner un certain groupe animal qui a de bien d'autres traits d'homogénéité par où on pourrait. On a choisi ce trait, sans doute, n'a-t-on pas le tort, mais c'est bien un des cas où l'on voit que l'esprit d'objectivation n'est pas lui-même sans être influencé par la prégnance. Je dirais, pour faire entendre de ceux qui n'ont pas encore compris, de certains traits. Et la prégnance, qui n'est pas simplement significative, qui induit en nous certaines significations où nous sommes les plus engagés. Vivipare, ovipare. Division vraiment faite pour embrouiller. Car tous les animaux sont vivipares, puisqu'ils en vendent des œufs dans lesquels il y a un vivant, et tous les animaux sont ovipares, puisqu'il n'y a pas de vivipare qui naît leur viviparé à l'intérieur d'un œuf. Mais pourquoi ne pas donner toute son importance à ce fait vraiment tout à fait analogique par rapport à ce saint dont je vous parlais tout à l'heure, que pour les œufs qui ont un certain temps de vie intra-utérine, il y a cet élément irréductible à la division de l'œuf en lui-même qui s'appelle le placenta. Qu'il y a là aussi quelque chose de plaqué. Et pour tout dire, ce n'est pas tellement l'enfant qui pompe la mère de son lait, c'est le sein. De même que c'est l'existence du placenta qui donne à la position de l'enfant à l'intérieur du corps de la mère ses caractères parfois manifestes sur le plan de la pathologie de nidation parasitaire. Vous voyez où j'entends mettre l'accent sur le privilège à un certain niveau d'éléments que nous pouvons qualifier dans vos scepteurs. De quel côté est ce saint? De côté de ce qui suce ou de côté de ce qui est sucé? Et après tout, je ne sais rien là que de vous rappeler ce à quoi effectivement la théorie analytique a été amenée, c'est-à-dire à parler, je ne dirais pas indifféremment, mais avec ambiguïté dans certaines phases, du saint ou de la mère. Bien sûr, en soulignant que ce n'est pas la même chose, mais est-ce bien tout que de qualifier le saint objet partiel? Quand je dis embocepteur, je souligne qu'il est aussi nécessaire d'articuler le rapport du sujet maternel au saint que le rapport du nourrisson au saint. Que la coupure ne passe pas pour tous les deux au même endroit. S'il y a deux coupures si distantes, qu'elles laissent même pour les deux des déchets différents. Car la coupure du cordon pour l'enfant laisse séparer de lui une chute qui s'appelle les enveloppes. Cela est homogène à lui et continue avec son ectoderme et son endoderme. Placenta n'est pas tellement intéressé en l'affaire. Pour la mère, la coupure se passe au niveau de la chute du placenta. C'est même pour ça qu'on appelle ça des caducs. Et la caducité de cet objet, petit a, est là ce qui fait sa fonction. Eh bien, que ceci n'est pas fait tout de suite pour vous amener à reviser certaines des relations déduites. Déduites imprudemment d'un brossage hâtif de ce que j'appelle ces lignes de séparation où se produit la chute, le Niederfallen typique de l'approche d'un petit a, pourtant plus essentiel au sujet que toute autre part de lui-même. C'est pour l'instant, pour vous faire naviguer tout droit sur ce qui est l'essentiel, à savoir, vous apercevoir où cette interrogation se transporte au niveau de la castration. Car la castration, là aussi, nous avons affaire à un organe. Avant de nous en tenir à la menace de castration, c'est-à-dire à ce que j'ai appelé le geste possible, est-ce que nous ne pouvons pas, analogiquement à l'image que j'ai produite aujourd'hui devant vous, chercher si déjà nous n'avons pas l'indication que l'angoisse est à placer ailleurs? Car un phallus, qu'on se gargarise toujours de biologie avec un caractère d'incroyable légèreté dans l'abord des phénomènes, a Un phallus, ça n'est pas limité au champ des mammifères. Il y a des tas d'insectes diversement répugnants. La blatte cafard, qui ont quoi? Des dards. Ça va très très loin dans l'échelle animale, le dard. Le dard, c'est un instrument. Et dans beaucoup de cas, je ne vais pas faire un cours d'anatomie comparé aujourd'hui. Je vous prie de vous référer aux bons auteurs, à l'occasion je vous les indiquerai. Le dard, c'est un instrument, ça sert à accrocher. Nous ne connaissons rien des jouissances amoureuses de la blatte du cafard. Rien n'indique pourtant qu'elles en soient privées. Il est même assez probable que jouissance et conjonction sexuelle ont toujours le rapport le plus étroit. Mais qu'importe. Notre expérience, à nous, hommes, et l'expérience que nous pouvons présumer être ceux des mammifères qui nous ressemblent le plus, conjoigne le lieu de la jouissance et l'instrument, le dard. Alors, nous prenons la chose pour allant de soi. Rien n'indique, tout indique, mais que là où l'instrument copulatoire est un dard ou une griffe, un objet d'accrochage, en tout cas un objet ni tumescent ni détumescible, la jouissance soit liée à la fonction de l'objet. Que la jouissance, l'orgasme, chez nous, pour nous limiter à nous, coïncide avec, si je puis dire, la mise hors de combat ou la mise hors de jeu de l'instrument par la détumescence, c'est une chose qui mérite tout à fait que nous ne la tenions pas pour quelque chose, si je puis dire, qui est, comme s'exprime Goldstein, dans la Wesenheit, dans l'essentialité de l'organisme. Cette coïncidence, d'abord, n'a rien de rigoureux, à partir du moment où on y songe. Ensuite, elle n'est pas, si je puis dire, dans la nature des choses, de l'organisme. En fait, qu'est-ce que nous voyons avec la première intuition de Freud sur une certaine source de l'angoisse? Le coitus interruptus. C'est justement le cas 1 ou par la nature même des opérations en cours, l'instrument est mis au jour dans sa fonction soudain déchue, l'accompagnement de l'organe, en tant que l'organe supposé signifier une satisfaction commune. Je laisse cette question en suspens. Je dis simplement que l'angoisse est promue par Freud dans sa fonction essentielle, là justement, où l'accompagnement de la montée orgasmique, avec ce qu'on peut appeler la mise en exercice de l'instrument, est justement disjointe. Le sujet peut en venir à l'éjaculation, mais c'est l'éjaculation au dehors. Et l'angoisse est justement provoquée par le fait qui est mis en valeur, ceci que j'ai appelé tout à l'heure, la mise hors de jeu de l'appareil, de l'instrument, dans la jouissance. Subjectivité, si vous voulez, est focalisée sur la chute du phallus. Cette chute du phallus, elle existe aussi bien dans l'orgasme accompli normalement, in situ. C'est justement là-dessus que mérite d'être retenu l'attention pour mettre en valeur une des dimensions de la castration. Comment est vécue la copulation entre hommes et femmes? C'est là ce qui permet à la fonction de la castration, à savoir au fait que le phallus est plus significatif dans le vécu humain par sa chute, par sa possibilité d'être objet chute, que par sa présence, c'est là ce qui désigne la possibilité de la place de la castration dans l'histoire du désir. Ceci, il est essentiel de le mettre en relief. Car sur quoi ai-je terminé la dernière fois, sinon à vous dire tant que le désir n'est pas situé structurellement, n'est pas distingué de la dimension de la jouissance, tant que la question n'est pas de savoir quel est le rapport, et s'il y a un rapport pour chaque partenaire entre le désir, nommément le désir de l'autre, et la jouissance, toute l'affaire est condamnée à l'obscurité. le point de clan de clivage. Grâce à Freud, nous l'avons. Cela seul est miraculeux dans la perception ultra précoce que Freud a eu de son caractère essentiel. Nous avons la fonction de la castration. Elle est intimement liée au trait de l'objet caduc. De la caducité comme le caractérisant essentiellement. C'est seulement à partir de cet objet caduc que nous pourrons voir ce que veut dire qu'on ait parlé d'objet partiel. En fait, je vous le dis tout de suite, l'objet partiel, c'est une invention du névrosé, c'est un fantasme. C'est lui qui en fait un objet partiel. Pour ce qui est de l'organe et de son rapport essentiel avec la fonction que nous définissons. La chute du plus réel du sujet. Est-ce que vous n'en avez pas eu, ceux qui ont ici une expérience d'analyste, plus d'une fois le témoignage? Combien de fois vous aura-t-il été dit, un sujet aura eu, je ne dis pas forcément son premier, mais un de ses premiers orgasmes, au moment où il fallait rendre en toute hâte la copie d'une composition ou d'un dessin qu'il fallait rapidement terminer, ramasser quoi? Son œuvre. Ce sur quoi il était essentiellement attendu à ce moment-là. Quelque chose à arracher de lui. Le ramassage des copies. À ce moment-là, il éjacule. Il éjacule au sommet de l'angoisse, bien sûr. Et quand on nous parle de la fameuse érotisation de l'angoisse, qu'il n'est pas d'abord nécessaire de savoir quel rapport a d'ores et déjà l'angoisse avec l'érose. Quels sont les versants respectifs de cette angoisse du côté de la jouissance et du côté du désir? C'est ce que nous essaierons d'engager la prochaine fois.